tous à la plage. Alors prenez votre pelle, votre seau, votre bouée, vos brassards, parce que ça y est, c'est parti! Ah non, je plaisante. Bah non, on part pas à la plage, parce qu'on est confinés. Et puis, de toute façon, dans les histoires que je vais vous raconter, les eaux sont tellement dangereuses que alors même vos bouées et vos brassards ne pourront pas vous sauver. Non, franchement, remettez vos vêtements, restez pas en maillot de bain parce que là vous avez l'air ridicule. Remettez vos vêtements et puis écoutez les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez votre pelle, votre seau, votre bouée et vos brassards parce qu'on part à la mer. Enfin, plus précisément, on va faire un tour au fond des océans. Quoique, tout compte fait, laissez tomber la pelle, le seau, les bouées, les brassards, parce qu'on va pas vraiment en avoir besoin. Non. Voici la première histoire qui s'appelle « La perle des abîmes ». Il n'est pas rare, dans les contes, de voir des princes épouser des bergères. Moins courantes, par contre, sont les unions entre princesses et pirates. Pourtant, c'est une affaire de cette sorte qu'il va être question dans le récit qui suit. En des circonstances qu'il serait un peu long de raconter ici, Diaelan, fille du roi d'Armor, et Mordlan le Noir, pirate notoire, s'étaient épris l'un de l'autre. Dans le feu de la passion, ils avaient juré de s'appartenir, quoi qu'il advienne, et pour toujours. Mais c'était compté sans le père de la belle. Lorsqu'en toute innocence, celle-ci lui annonça ses intentions, il entra dans une violente colère. « Jamais je n'aurai un pirate pour gendre !» Je préférais encore t'enfermer au couvent jusqu'à la fin de tes jours. » La princesse eut beau protester, supplier, pleurer et se morfondre, le refus paternel resta irrévocable. Lors, n'ayant d'autre choix que de le transgresser, elle décida de fuir à l'autre bout du monde. Aussi, la nuit suivante, quitta-t-elle en secret le château pour courir jusqu'au port, s'embarquer sur le bateau de son bien-aimé en partance pour la Jamaïque. L'aube les trouva au bastingage, fouettés par le vent et les embruns. Dans le fracas des vagues, les cris des mouettes et les claquements de la voile, ils échangeaient de doux serments en faisant mille projets d'avenir. Une fée marine, qui passait par là, surprit leurs propos. Charmée, car les fées aiment l'amour plus qu'il n'est raisonnable, elle se promit de leur venir en aide au cas où un obstacle se dresserait sur leur route. Or, obstacle il y eut, et de taille. Le roi, ayant constaté l'absence de sa fille, envoya immédiatement un navire à ses trousses. « Ramenez-la-moi, morte ou vive » ordonna-t-il au capitaine. « Dussiez-vous pour cela expédier par le fond ce satané Raffio et tout son équipage ?» Le capitaine obéit. Bientôt, le canon tonna, ouvrant de larges brèches dans les flancs du bateau. Puis les marins du roi donnèrent l'abordage. Comme ils étaient supérieurs en nombre et mieux armés, ils eurent rapidement le dessus. Ce fut un véritable carnage. Le pont du vaisseau pirate, jonché de corps sanglants, ressemblait à un abattoir. Puis, selon la dure loi de la mer, les vainqueurs attachèrent Mordlan le Noir au mât de misaine pour le fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive, et ce, sous les yeux de la princesse qui, de désespoir, s'évanouit. Ce fut à cet instant que la fée intervint. Soustrayant les tragiques amants à leur bourreau, elle les changea, lui, en huîtres, elle, en perles. Puis elle les posa sur un lit d'algues au fond de l'océan pour qu'ils s'y aiment tout leur saoul. À dater de ce jour mémorable, chacun put voir, à l'emplacement du drame, une étrange lueur sourdre des flots. C'était Diaelan, la perle des abîmes dont le rayonnement illuminait la mer. Quoi d'étonnant dès lors à ce qu'elle attira les convoitises. Le roi en personne, chuchotait-on dans le pays, la désirait pour orner sa couronne et offrait son poids d'or à qui la pêcherait. Nombreux furent les plongeurs qui tentèrent l'aventure. Aucun d'eux n'en revint. Car la fée, prévoyante, avait garni la coquille de l'huître de dents de loup afin qu'elle dépeçât quiconque voudrait lui arracher sa perle. Par-delà leur métamorphose, l'amour de Diaelan et de son ardent pirate continuait à semer la mort.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile. Gamble away, my friend.
Pour cette deuxième histoire, laissez tomber la pelle, le seau, la bouée et les brassards parce que vous n'en aurez pas besoin. Non, vraiment. Dans cette deuxième histoire, qui est allemande, les eaux sont tellement dangereuses que je vous déconseille de vous y plonger. Cette histoire s'appelle la Lorelei. Si vous descendez un jour le cours du Rhin en bateau, les mariniers vous montreront, près de la rive droite, le rocher de la Lorelei au pied duquel bouillonne l'eau du fleuve. Vous regarderez en silence et vous attendrez que le bateau ait gagné un flot moins tumultueux pour demander qui était cette Ondine et quelle fut son histoire. On la raconte de mille et une manières, mais tous ceux qui vous parleront de Lorelei s'accorderont à dire qu'elle était d'une beauté incomparable. Pour ma part, je vous conterai son histoire telle que je l'ai entendue de la bouche d'un très vieux passeur, retraité depuis des années, et qui ne prenait plus son bateau que pour venir contempler le rocher au coucher du soleil. Peut-être espérait-il que l'Ondine reviendrait un soir et qu'il aurait la chance de la contempler comme avaient pu le faire ses lointains ancêtres. J'étais encore très jeune lorsque le vieil homme me confia ses souvenirs. Sans doute est-il mort depuis des années, mais son propos est resté en ma mémoire. Sans y changer un mot, c'est ce qu'il m'a dit que je vous rapporte aujourd'hui. Figure-toi, mon petit, que beaucoup d'eau a coulé entre ces rives depuis que la Lorelei a disparu. Je ne saurais te dire combien d'années, combien de siècles ont passé, mais je sais que les hommes se battaient alors avec des épées et qu'ils n'avaient pas encore inventé ces guerres effrayantes qui abreuvent la terre du sang des innocents et rougissent l'eau des fleuves. En ces temps-là, les bateaux descendaient ou remontaient le fleuve à force de rames. Certains étaient halés par des hommes d'autre par des chevaux. On te racontera peut-être que la Lorelei était une espèce de sirène, d'une grande beauté qui chantait, perchée sur son rocher, pour faire perdre la tête aux hommes d'équipage et attirer les embarcations sur les récifs. Pour être belle, elle était belle. Tellement qu'on n'a plus jamais vu fille aussi resplendissante. Quant à sa voix, c'est vrai aussi qu'elle était merveilleuse. Mais ce n'était pas... c'était pas une mauvaise créature, au contraire. C'était plutôt une bonne personne, qui chantait pour faire oublier aux mariniers la rudesse de leur labeur et les dangers de ce sacré fleuve, si souvent de mauvaise humeur. On dit même qu'elle montrait du doigt aux pêcheurs l'endroit où se tenaient les bancs de poissons. Mais ça, vois-tu, je n'en suis pas absolument certain. Moi, je crois plutôt que c'était une invention, parce que les ondines sont un peu de la famille des poissons, et qu'elles ne doivent pas être tellement heureuses de les voir se débattre dans les mailles d'un filet. Elle était connue de tous les bateliers qui la voyaient, dans les derniers rayons du couchant, peignant sa chevelure d'or qui lui descendait jusqu'à hauteur des hanches. Mais naturellement, la présence d'une ondine aussi belle sur un rocher, ça ne pouvait pas rester le secret des mariniers. Sur les bateaux, il y avait parfois des passagers, et tous ceux qui voyaient une fois la Lorelei en parlaient à qui voulait les entendre. Or, il y avait un conte puissant, et très riche, nommé Albrecht, dont le fils décide un jour d'enlever la Lorelei. Le voilà qui s'en vient sur son cheval noir jusqu'à la rive et qui demande à un vieux batelier de mon espèce de le conduire au pied du rocher. Le vieil homme du fleuve, qui n'était pas tombé de la dernière pluie, se dit que le garçon a certainement quelque chose de malsain dans la tête et il refuse. Mais le jeune noble a l'habitude qu'on fasse ses quatre volontés et voilà qu'il tire son épée. Que peut faire le vieil homme ? Rien du tout. Rien d'autre que se mettre au banc de nage pour sauter ferme en direction du rocher. C'est le crépuscule, la lumière est blonde et les ombres toutes cendrées, et c'est l'heure que préfère l'ondine. Elle est justement sur son rocher et commence à chanter. Le jeune homme demeure un moment silencieux, le souffle coupé, et puis voilà qu'il se met à crier au marinier. « Abordez ! Abordez à ce rocher !» Le vieux s'arrête de ramer, et tranquillement il dit « Impossible. Personne n'a jamais pu aborder ici. Voyez bien qu'il y a des remous et des vagues qui retourneraient ma barque comme une crêpe. » Le jeune homme se fâche, menace, mais comme le vieux ne veut rien entendre, il finit par demander. « Approchez-vous le plus possible, je sauterai bien jusqu'au rocher. » L'homme du fleuve essaie de lui faire entendre raison, mais comme le gaillard s'obstine et devient menaçant, il ne reste plus qu'à serrer au plus près le rocher. Et voilà le jeune noble qui s'élance. Il est souple et leste, mais malgré tout, son saut est trop court. Aussitôt dans le fleuve, il est roulé par les flots. Empêtré dans son armure, alourdi par ses armes, il coule à pic sans que le marinier puisse rien tenter pour le sauver. C'est en vain qu'on cherche son corps. Personne jamais ne le retrouvera. Apprenant la mort de son unique héritier, le comte Albrecht entre dans une terrible colère. Il commence par s'en prendre au marinier et voudrait faire exécuter celui qui a conduit son fils au pied du rocher. Et dans ce métier où les hommes sont toujours à se battre contre le fleuve et les orages, on a l'habitude de se soutenir l'un l'autre. Personne n'accepte de parler, et le comte n'arrive pas à connaître le nom de celui qu'il recherche. Il tourne alors sa colère contre la Lorelei et ordonne au capitaine de ses gardes de s'en emparer. Il prétend que cette créature est une sorcière et qu'il faut la brûler vive. D'ailleurs, de la rive, bien qu'il ne puisse l'apercevoir, il l'entend chanter. Et au lieu de le séduire comme elle a toujours séduit les mariniers, cette voix si belle attise encore sa fureur. Le capitaine s'embarque donc avec une douzaine de soldats pour donner l'assaut, et à force de ruse et d'obstination, après avoir noyé plusieurs de ses hommes, il parvient à grimper jusqu'au sommet de la pierre où s'est réfugiée la jeune fille. « Je te tiens, sorcière ! Tu as tué le fils de mon maître, tu seras ficelé sur un tas de fagots et brûlé dans la cour du château. Tu vas voir ce qu'il en coûte d'ensorceler un jeune homme. » Il va empoigner la Lorelei pour l'entraîner, mais effrayée, elle se met à crier. « Fleuve, viens à mon secours! Sauve-moi de la colère des hommes, je n'ai fait aucun mal! Sauve-moi de cette injustice !» Alors, comme si quelque part en amont une digue retenait des lacs entiers s'était rompue soudain, voilà que le fleuve se met à grossir. Son eau n'est plus qu'un bouillonnement d'écume et sa voix emplit la vallée d'un bruit de tonnerre. Les soldats et le capitaine sont emportés. Nul ne saura jamais ce qu'ils sont devenus, mais ce qui est certain, c'est que la Lorelei aussi disparaît dans les eaux. Jamais on ne la reverra sur son rocher. Depuis, les bateliers du Rhin sont tristes lorsqu'ils passent ici. Et pourtant, certains soirs, quand le soleil met de l'or sur la pierre et que les remous du fleuve ressemblent aux cheveux blonds de la Lorelei, il arrive que l'on entende sa voix. Une voix fraîche et pure comme les sources qui naissent au pied des glaciers. Une voix qui monte du Rhin avec le premier souffle du vent de nuit. C'était l'émission Conte-Goutte enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.